8h18 sur France Culture, deuxième partie des matins en compagnie du défenseur des droits Jacques Toubon, rejoint pour cette deuxième partie par Daniel Lechac, professeur émérite de droit public, membre du GISTI dont vous avez été présidente pendant 15 ans, le GISTI groupe d'information et de soutien des immigrés. Bonjour Daniel Lechac.
Bonjour.
Et puis Brice Couturier est également avec nous pour vous interroger. Alors pour vous, on va parler donc de ce rapport que vous rendez public aujourd'hui, les droits fondamentaux des étrangers en France. Dites-nous en quelques mots, Jacques Toubon, que contient ce rapport? Est-ce que vous pouvez nous en livrer en quelques phrases la substantifique moelle, si vous m'autorisez l'expression rabelaisienne?
D'abord, quelle est son origine, le pourquoi? On a souvent tendance à considérer comme mineur, je dirais d'une certaine façon, ou marginal, le traitement qui est fait sur le plan juridique aux étrangers. Dans l'opinion publique, souvent, par exemple, le défenseur des droits est considéré comme le défenseur des droits des citoyens. J'ai du mal à expliquer que les droits dont je suis le défenseur sont des droits universels, c'est-à-dire qui s'appliquent à chaque personne humaine sur le territoire de la France, quel que soit son statut, qu'il soit citoyen français ou qu'il soit étranger. Et ce qui m'a inspiré, c'est que je me suis rendu compte en fait que peu à peu, à travers les règles, à travers les lois, mais aussi tout simplement dans les pratiques, les étrangers n'étaient pas traités justement comme des personnes titulaire de droit, je veux dire comme élève de l'école ou usager du service de santé, des malades, etc. Mais qu'ils étaient traités en tant qu'étrangers et que donc ils faisaient en fait l'objet d'une sorte de discrimination de fait globale qui ne repose sur aucune règle et qui, d'autre part, ne prend absolument pas en compte ce qui est le seul critère qui est admis, c'est celui de la nationalité. J'ai le souvenir, par exemple, que dans mon esprit, il y a un an et demi, c'est déclenché quelque chose lorsque, par exemple, on m'a raconté que des femmes étrangères qui étaient reçues dans des services hospitaliers se voyaient donner des rendez-vous pour procéder à une interruption volontaire de grossesse après la date de l'expiration des 12 semaines. Elle ne s'en rendait pas compte naturellement. La personne qui leur donnait le rendez-vous, je pense, le savait très bien. Et c'était une manière de les empêcher d'accéder à l'IVG. Et donc de les traiter de manière complètement différente. En fait, il faut bien voir que, il faut que tout le monde se rende compte que, pour ce qui est de l'entrée, du séjour, de l'éloignement des personnes, les États ont une sorte de souveraineté qui leur permet, avec des pouvoirs souvent discrétionnaires, mais encadrés par les grandes conventions, bien entendu, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, celle du Conseil constitutionnel, de faire une distinction entre les nationaux et les étrangers.
C'est le premier chapitre de votre rapport.
Parce que je dirais que c'est le privilège des États souverains. Et je pense que cette police des étrangers n'est pas anormale dans un système d'état de droit. Mais de l'autre côté, il y a les droits sociaux, les droits civiques, etc., qui, eux, doivent être reconnus et mis en œuvre sans aucune distinction. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que, d'une part, malheureusement, sur le premier chapitre, on va trop loin dans la restriction. Et
pour ce qui concerne l'entrée, l'éloignement,
la maîtrise des migrations, en
fait, les expulsions surtout.
Et de l'autre côté, ce que j'expliquais tout à l'heure, que pour les droits ordinaires de la vie de tous les jours, eh bien malheureusement, on ne considère pas les personnes en tant que telles, mais on les considère comme étrangères.
Alors avant de rentrer dans le détail de ce rapport, et on en parlera avec Daniel Lechac qui l'a lu, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, c'est que ce rapport s'appelle « Droits fondamentaux des étrangers », et il y a quelque chose d'intéressant autour de l'emploi des termes. Vous rappelez notamment, en introduction à ce rapport, que la distinction sémantique entre migrants et réfugiés est un premier pas dans la réduction des droits fondamentaux, que ça crée deux catégories de gens qu'on ne traite pas de la même façon, Jacques Toubon.
C'est-à-dire que dans le temps, migrant était l'expression qui était employée par les juristes, par les sociologues, par les historiens, il y a 20 ou 30 ans. Et il y a beaucoup de revues, par exemple, qui portent le nom, qui portent ces noms-là. La revue du Musée national d'histoire des migrations dont je me suis occupé s'appelle Hommes et migrations. Bien. Et d'autre part, il y avait un certain nombre de termes qui avaient des sens particuliers, réfugiés, c'est-à-dire des personnes ayant le statut de la Convention de 51 de Genève.
Qui viennent chercher le droit d'asile.
Des exilés, parce qu'ils avaient une histoire politique. Et puis, on distinguait bien entre les émigrants, celui qui sort d'un pays, les immigrants, ceux qui rentrent, et puis on distinguait aussi ceux qui, par exemple, vivent dans un pays et qui sont des immigrés, comme par exemple énormément, des millions de Français qui sont Français, mais qui sont d'origine immigrée. Et aujourd'hui, on a, à travers les médias, à travers le discours politique, inventé une situation et un mot qui s'appelle « crise des migrants ». Et à partir de là, vous dites d'abord quelque chose qui est faux. C'est pas une crise, c'est quelque chose qui est en route et qui est devant nous. En réalité, c'est pas quelque chose qui est appelé à s'ouvrir et se fermer comme une crise. Nous avons aujourd'hui dans le monde des mouvements de migration, et en particulier en direction de l'Europe. Il faut les prendre en compte. Et la politique de l'Union européenne, justement, ne le fait pas. Deuxièmement, ces migrants, aujourd'hui, ils sont appelés tels quels, non pas pour les qualifier, comme c'était le cas il y a 30 ou 40 ans de manière scientifique, mais pour les disqualifier. Crise des migrants, ça veut dire le problème que nous vivons et qui est mis sur la table comme étant le problème central. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les mots ont donc de l'importance, que les mots sont utilisés dans le débat politique de manière fourvoyée. Et le rapport que je fais, il y en a 200 pages de situations très détaillées, il a un objet, je l'espère, et notamment à travers les médias, éducatif, c'est-à-dire d'expliquer comment les droits sont universels et au profit de tous.
Alors Daniel Lechac, vous avez consulté ce rapport, peut-être un point de vue, votre point de vue sur ce rapport du Défenseur des droits sur les droits fondamentaux des étrangers
en
France.
D'abord, je voudrais dire que ce que Jacques Toubon vient de rappeler sur ces discriminations faites à l'égard des étrangers et cette idée que ces discriminations sont légitimes, sont normales, moi j'en ai aussi bien entendu conscience. Sauf que depuis les années 70, l'idée que les droits de l'homme sont universels a quand même fait du chemin. Et c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est qu'on assiste à une évolution un peu schizophrène. D'un côté, cette affirmation que les droits de l'homme sont pour tout le monde, qui est même réaffirmée quand il le veut bien par le Conseil constitutionnel, même s'il n'en tire pas toutes les conséquences qui seraient logiques, par la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et puis d'un autre côté, depuis à peu près la même année, les mêmes années, c'est-à-dire les années 70, ce repli sur les frontières, cette obsession de maîtrise, comme on dit joliment, des flux migratoires, qui fait que ces droits fondamentaux sont en réalité sans arrêt restreints. Donc, en ce qui concerne ce que nous, on peut penser de ce rapport, c'est que, bien sûr, on ne peut, nous, justiques, s'en féliciter. C'est-à-dire qu'au fond, il rend compte de l'ampleur des atteintes portées aux droits des étrangers. Et je dirais que pour le justice, ça n'a rien d'étonnant. Ce ne sont pas des révélations. Nous, ça fait très très longtemps qu'on les dénonce. Évidemment, là où le justice dénonce et revendique, le défenseur des droits, lui, il constate, il déplore et il recommande, ce qui est chacun dans son rôle, bien entendu. Mais il rend compte à la fois parmi ces atteintes portées aux droits des étrangers, de celles qui sont en réalité, et M. Toubon vient de le rappeler, dans les lois elles-mêmes. Et ces lois, nous évidemment, nous les contestons. Elles sont souvent sous influence de la politique européenne dont on sait aujourd'hui ce qu'elle est. Et puis, indépendamment de cela, et il l'a rappelé également, il y a toutes les pratiques illégales et les comportements illégaux.
Alors, si vous voulez bien, je vous interromps une seconde pour expliquer quand même un peu aux auditeurs en quoi consiste effectivement pratiquement ce rapport. Et effectivement, il est divisé en trois grandes parties. Jacques Toubon le disait, d'abord la première partie consacrée à l'entrée sur le territoire, la deuxième consacrée aux droits fondamentaux des étrangers présents sur le territoire, et la troisième consacrée aux mineurs. Il est constitué d'un certain nombre de plaintes qui ont été adressées.
Bien entendu, je n'ai rien inventé.
Voilà, hein, voilà.
Et vous savez que le travail.
Ce sont des recommandations. Pardon, je termine, Jacques Toubon, un instant et je vous donne la parole. Donc, il est fondé sur les plaintes que le défenseur des droits a reçues, et ce sont des recommandations illustrées d'exemples, justement, issus de ces plaintes. Allez, Jacques Toubon, allez-y.
Oui. Je crois que c'est tout à l'heure sur votre radio, en début de matinée, il y avait un papier qui le disait, par exemple, un cas qu'on comprend très très bien. Pour avoir un visa. De court séjour de 3 mois. Il faut que la mairie délivre à la personne qui va accueillir une attestation d'hébergement. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, il y a des mairies qui ajoutent des conditions qui n'existent pas dans les textes, des conditions de ressources, et comme ça, et qui font que la personne qui veut avoir son visa n'obtient pas son attestation, donc n'a pas son visa. Voilà. C'est très extrêmement simple. C'est pas de la haute politique, mais c'est ce que Daniel Lochak disait très justement, une manière de restreindre toujours plus et de pratiquer une action quotidienne qui est à l'encontre des étrangers. Alors, nous avons naturellement, s'agissant des lois, par exemple l'année dernière, donné des avis en grande partie négatif sur le projet de loi qui concernait le droit d'asile, qui a donné lieu à la loi de juillet 2015, sur le projet de loi concernant les droits des étrangers, qui est devenu la loi du 7 mars 2016, et qui contiennent, comme Daniel Lechac l'a dit, un certain nombre de dispositions qui nous paraissent tout à fait contraires aux principes, bien entendu.
Daniel Lechac, sur le droit des étrangers, est-il vrai que ce que l'on dit, c'est-à-dire que depuis l'ordonnance du 2 novembre 1945, toutes les lois votées sur le droit des étrangers ont consisté, à de rares exceptions près, à réduire les droits des étrangers par rapport aux nationaux sur le territoire français.
Déjà entre 1945 et 1980, il n'y a rien eu. Donc ce qui s'est fait, c'était par décret. Et c'est seulement à partir des années 72, en fait, qu'il y a eu des textes, des circulaires et des décrets qui ont restreint les droits des étrangers. Et puis, il y a quand même eu 1981, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir, où il y a eu quand même un progrès assez fondamental. Et la loi de 1984 sur la carte de résident, qui a été, elle aussi, un grand progrès. Ce qui est vrai, c'est que depuis, et notamment depuis la loi de 1984, qui, je le rappelle, prévoyait que la quasi-totalité des étrangers résidant en France et ceux qui avaient des attaches en France et qui avaient donc vocation à y séjourner, serait doté d'une carte de 10 ans renouvelable automatiquement.
Fameux TU10.
Voilà, c'était un formidable facteur
qui a disparu
d'intégration.
Depuis.
Et tout le monde. Tout le monde l'a compris comme ça, et la droite, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, l'a voté. Et puis après, effectivement, il y a eu cette dégradation progressive. Et dans le rapport, il est dit très justement, le Gisti, d'ailleurs, avait l'année dernière fait une journée d'études sur cette question, parle de précarisation, et la précarisation du droit au séjour, c'est-à-dire des cartes d'un an et encore quelquefois moins, va de pair avec une dégradation des droits eux-mêmes. Mais je voudrais quand même dire quand même notre sentiment un peu mitigé sur ce rapport, non pas sur le rapport lui-même, car nous nous félicitons qu'il existe, nous nous félicitons vraiment que le défenseur des droits ait fait ce travail important et synthétique, dont on espère, comme M. Toubon, qu'il ouvrira les yeux de ceux qui les tiennent fermés, mais impression mitigée et un peu pessimiste, car le fait est que même lorsque vous lisez ce rapport, et nous en avons d'autres preuves, c'est que ces recommandations, ces rapports, ces avis du défenseur des droits, eh bien, on a l'impression qu'ils ne servent pas à grand-chose. On voit bien dans tout le rapport comment le défenseur des droits dit « voilà ce que nous avons constaté, voilà ce que nous avons préconisé » et qu'est-ce qu'il en résulte ? Quelquefois négation Par exemple, je pense au rapport sur Calais, où la réaction du ministère de l'Intérieur a quand même été assez extraordinaire.
Précisons mais non, que le Défenseur des droits a publié il y a quelques semaines
le 6 octobre. Voilà. Le 6 octobre.
D'ailleurs sur Calais, puisque votre prédécesseur, donc la première saisine du Défenseur des droits a été l'incitation du Justi, une saisine sur la situation à Calais.
Sur la situation des mineurs isolés précisément.
Non, c'était bien plus large que ça. C'était la situation à Calais.
Le premier rapport de Dominique Baudy, c'était vraiment sur la situation à Calais.
Je parle du dernier que vous avez
publié. Et sur les violences policières à Calais. Et à chaque fois, il y a donc dénégation de la part du ministre, ou bien au mieux, ça se voit dans le rapport, oui, on va donner des recommandations, mais à chaque fois, ça ne débouche sur rien. Et moi, ma crainte, évidemment, c'est que ce rapport, il fasse bien sûr le bonheur de toutes les associations qui luttent pour les droits des étrangers, mais qu'il ait malheureusement peu d'influence sur les pouvoirs publics.
Est-ce que je peux faire remarquer à Danielle Lechat que ce qu'elle dit n'est pas tout à fait exact? C'est vrai que le Défenseur des droits... comme je le fais toujours observer par rapport au juge, il dispose de la balance, mais pas du glaive, c'est sûr. Mais, en même temps, nos positions ont des effets. Je prends pour preuve simplement le fait que c'est à la suite du rapport du 6 octobre 2015 sur la situation à Calais que des associations ont saisi le tribunal administratif de Lille, ont obtenu un certain nombre de décisions et le Conseil d'État les a entérinées et qui constituent aujourd'hui de nouvelles obligations qui s'imposent à l'État en matière d'hébergement, par exemple. De la même façon, un tout petit point, mais nous avons obtenu, après 3 ans d'efforts, que... les titulaires de l'allocation adulte handicapé puissent permettre d'ouvrir le droit au regroupement familial, alors qu'auparavant ça n'était pas compté. Bien, ça paraît peu de choses, mais je crois que nous avançons. Mais c'est vrai que, et j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure, il existe une tendance lourde sur le plan politique et que nous sommes à contre-courant de cette tendance lourde.
Brice Couturier, Danielle Lechat, je vais donner la parole à Brice Couturier.
Oui, j'aimerais revenir à quelques concepts de base. On voit bien qu'on cherche à brouiller les frontières entre citoyenneté et étranger, entre le citoyen et l'étranger. Le citoyen, c'est celui qui participe à un corps politique avec des responsabilités qui vont avec cette citoyenneté, les responsabilités correspondantes. Alors certes, nous n'avons plus de service militaire, mais nous devons nous souvenir que l'origine de la citoyenneté dans ce pays, c'est la Révolution française qui l'a posée avec l'idée de la conscription, de devoir défendre sa patrie sous les armes. Et donc ça, l'étranger n'y est pas soumis. Alors, certes, vous dites les droits de l'homme sont universels. Évidemment, les droits de l'homme sont universels, mais des droits sociaux et politiques, non. Les droits sociaux ne peuvent pas l'être pour des raisons matérielles, madame, parce que l'Europe ne peut pas fournir la santé, ni l'éducation, ni le logement gratuit à toute la planète, par définition. Surtout qu'en France, nous le savons, nos systèmes sociaux sont, sur le plan financier, tendus à l'extrême. Quant aux droits politiques, non plus, ne peuvent pas être universels par définition. On appartient à un État dont on a la citoyenneté, on a le droit de vote correspondant et encore une fois, on a les responsabilités correspondantes. Donc on ne peut pas brouiller ainsi les repères et noyer la citoyenneté dans une citoyenneté universelle qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas d'État universel.
Jacques Toubon, puis Danielle Lechat. Jacques Toubon.
Ce que vous dites est la négation complète de ce qui est, depuis... la Deuxième Guerre mondiale, Nuremberg, etc. Mais depuis même la guerre de 14, la réalité, c'est pas un fantasme idéologique. Il existe des droits qui sont des droits universels, c'est-à-dire qui bénéficient à toute personne, quel que soit son statut régulier ou irrégulier, son statut de citoyen ou d'étranger. Et contrairement à ce que vous dites, c'est le cas, par exemple, des droits sociaux. Que ce soit des droits sociaux contributifs, que ce soit des droits contributifs, qu'on finance par des cotisations, et un ouvrier étranger qui paye des cotisations, il est comme un ouvrier qui n'est pas étranger qui paye des cotisations, ou que ce soit des droits qui proviennent de la solidarité nationale. Et par exemple, j'en prendrai un seul, alors qui est massif. Le droit à l'éducation s'applique à tous les enfants. C'est un droit universel. On ne peut pas refuser d'inscrire dans une école à partir de 6 ans un enfant, quel qu'il soit.
Danielle Lechat, pour répondre à Brice Couturier.
Je suis consternée Je suis concernée par ce que
vous dites. Je suis là pour rendre les gens consternés, oui. Puis pour parler aux auditeurs aussi un petit peu.
D'accord, mais ça, je m'en suis déjà aperçue, merci.
Ils entendent la diversité.
Et puis, pour entendre aussi quelque chose que dit Brice, c'est que la doxa, comme le disait Jacques Bon, ne va pas tout à fait dans ce sens-là en ce moment.
Attendez, je suis consternée, car c'est lui qui brouille les frontières. Quand on dit droit universel, on ne dit pas que, d'ailleurs, dans le rapport de Jacques Toubon, il n'est même pas dit qu'ils parleront des droits politiques. Donc ça, c'est autre chose. Si vous êtes contre donner le droit de vote aux étrangers, c'est votre position. Et cette position, elle se défend. Moi, j'en ai une autre. Mais peu importe,
il n'en est pas fait mention dans le rapport.
Il n'en est pas fait mention. Et d'ailleurs, c'est expliqué tout à fait au début. Non, mais ce qui est concernant, c'est que vous, c'est vous qui brouillez les frontières en disant « Ah, mais si vous dites que les droits sont universels, ça veut dire que, du coup, il faut donner des droits sociaux à toute la planète. » C'est pas ça le truc. Laissez-moi finir.
Doucement, Daniel
Lechac. Mais non, mais c'est quand même énervant. On peut pas. Écoutez, il dit des choses consternantes et on peut pas lui répliquer.
Si, vous avez tout à fait la parole. Allez-y.
Moi, je me trouve consternante aussi. J'ai le droit de le dire également.
Doucement, on n'est pas là pour s'aboyer dessus.
Vous le direz après. Daniel Lechac. J'explique pourquoi je trouve ça consternant. Parce que vous dites les choses à l'envers. C'est-à-dire que vous dites « Ah, mais dire que les droits sont universels, ça voudrait dire que nous devons, nous préoccuper de l'ensemble de la planète et donner des droits sociaux à l'ensemble de la planète. » C'est pas ça le problème. Nous sommes en France. Revenons à la France. D'accord ? Le Conseil constitutionnel, il fut un temps, c'était en 1990, a dit clairement que les droits sociaux ne pouvaient pas être refusés aux étrangers. Il avait ajouté qui sont en situation régulière. Donc déjà, attendez. Donc déjà, les étrangers en situation régulière ne peuvent pas faire l'objet de discrimination dans l'accès aux droits sociaux. Or, nous constatons, et c'est dit dans le rapport, que en éliminant la condition de nationalité, on a remis des conditions de durée de séjour qui, de fait, provoquent de nouvelles discriminations. Prenons ensuite le cas des étrangers en situation irrégulière. Ceux-là, on le sait, n'ont pas, dans notre système, les mêmes droits que les étrangers en situation régulière et que les nationaux. Néanmoins...
Ils ont l'aide médicale d'État, non ?
Alors, attendez, pour l'aide médicale d'État.
Daniel, concluez pour que je puisse redonner la parole à Jacques Toubon, s'il vous plaît.
L'aide médicale d'État, d'abord, la scolarisation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que même si les parents sont en situation irrégulière, je vous rappelle que s'ils sont en situation irrégulière, c'est souvent parce que les préfectures leur ont refusé illégalement des papiers. Vous serez sans doute d'accord, mais je n'en sais rien après tout, pour dire que les enfants de personnes en situation irrégulière ont peut-être quand même le droit d'aller à l'école. Vous parlez de la
en un mot, Daniel Lechac, parce que j'aimerais qu'on passe à autre chose après, s'il vous plaît.
L'aide médicale d'État, vous savez comment elle est née ? Elle est née le jour où on a supprimé le droit à la sécurité sociale pour les personnes en situation irrégulière. Elles y avaient droit parce qu'elles cotisaient. Donc elles cotisaient et elles avaient donc droit à des prestations. Un jour, on a dit, en 93, « Oh ben non, finalement, on ne va plus leur donner le droit à la sécurité sociale. » Et comme il fallait quand même bien leur donner des soins minimum, on a créé l'aide médicale d'État et maintenant on dit « Ah oui, mais ça coûte trop cher.
Voilà. » Un peu plus d'un milliard, c'est ça ?
Mais attendez, par rapport au
pour
reste,
conclure,
c'est quoi ?
S'il vous plaît, j'aimerais donner la parole à Jacques Toubon pour conclure dans les quelques minutes qui nous restent. On voit bien, compte tenu du ton de ces échanges, Jacques Toubon, qu'effectivement, ce rapport sur les droits fondamentaux des étrangers, il ne va pas tout à fait, il s'inscrit dans un air du temps, dirons-nous, qui est plutôt défavorable à un certain nombre de propositions que vous soumettez. Pour reprendre ce que disait Daniel Lechac, quelle pérennité peut avoir ce rapport ? Quel impact il peut avoir sur les décisions publiques et quel avenir vous lui souhaitez concrètement dans l'action de la sphère publique ?
D'abord, ce rapport, il cherche à dire quelque chose qui me paraîtrait devoir être faire l'objet d'un consensus pour tout le monde dans notre pays. Le sort réservé aux étrangers, depuis la plus haute antiquité, c'est le marqueur de l'état d'une société. Parce que c'est la manière dont on considère l'autre, et en particulier sur le plan juridique et sur le plan politique, qui marque la conscience que l'on a, en gros, de l'existence d'une humanité. Et je pense que la France, qui s'est proclamée, qui continue à se proclamer, pays des droits de l'homme, devrait être particulièrement attentive à cela. Est-ce que de ce point de vue, du point de vue de ce marqueur, nous avons reculé ? Daniel Lechac l'a dit justement, c'est depuis le début des années 70 que les choses ont commencé à dériver. Deuxièmement, pour parler de l'air du temps, puisque vous en parlez, c'est clair que, et là je vais dire quelque chose qui naturellement va un peu au-delà de mes attributions, mais tout ce que je constate, j'y cherche une explication. Et cette explication, elle est que l'agenda, aujourd'hui, de l'ensemble des forces dirigeantes, sur le plan politique ou d'autres, est un agenda unique. Agenda, c'est, en latin, ça veut dire ce qui est à faire, hein. C'est pas un baratin, hein. C'est pas des proclamations. C'est ce qu'on doit faire. L'agenda est aujourd'hui unique, et c'est un agenda quoi? Identité, protection, peur, déclin. C'est-à-dire que, en gros, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde a le même, entre guillemets, programme. Et quand, je prends un seul exemple, quand je vois ces derniers jours, qu'un homme aussi pondéré, imbu de tout ce qui est les plus hautes traditions de la haute administration française, qui connaît mieux que personne comment la France a été construite, Édouard Balladur, dit « la question de l'identité sera au centre de la prochaine élection présidentielle », je me dis « mais où va-t-on ? » Non, non, aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir si nous sommes capables de faire vivre cette société, de donner à manger à tous ceux qui n'ont pas, de faire que les droits soient également respectés, que l'égalité soit une réalité et non pas une proclamation sur le fronton. Et ce que je dis sur les étrangers, c'est simplement la manifestation de ça. Au moins que l'on reconnaisse que le discours public a complètement évolué, qu'on ne parle plus de discrimination, qu'on n'en veut plus, et qu'aujourd'hui, ce que je dis moi, eh bien je pense que ça peut avoir une grande utilité. Parce que,
en dehors de la politique,
peut-être que l'agenda n'est pas unique.
Merci, ce seront les mots de la fin. Merci Jacques Toubon, défenseur des droits, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Daniel Lochac, également.